Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Voilà, aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Ducomte, qui est donc président de la Ligue de l'enseignement. Cette conférence est organisée donc en partenariat avec la Ligue de l'enseignement et donc dans le cadre de notre exposition Tous humains, qui parle bien sûr du racisme. Et donc l'exposition est présente jusqu'au 3 mars 2019, donc vous avez encore quelques temps pour la découvrir. Et donc, je vais laisser la parole tout de suite à Monsieur Georges Brock, pour vous présenter donc Monsieur Ducomte.
C'est Brack, mon nom, c'est pas Brack, c'est pas Brack, ça fait trop. Bonsoir, chers amis. Juste un tout petit mot en tant que président de la Ligue de l'enseignement de la Vienne, d'avoir le plaisir d'avoir une fois de plus à Poitiers, c'est pas la première fois, d'avoir Jean-Michel Ducomte à nos côtés. Donc, Jean-Michel Ducomte est le président national de la Ligue de l'enseignement. Il était venu il n'y a pas si longtemps à l'Université Interage à Poitiers faire une conférence sur la laïcité. Il est, dans ses multiples activités, il est professeur à Sciences Po Toulouse en droit public. Et au-delà de cette spécialité universitaire, il est un militant de belles causes, comme la laïcité, comme les problèmes, on en parlait tout à l'heure, sur les migrations, sur un certain nombre de questions de société, ce qui fait qu'il a des engagements multiples, des réflexions multiples. C'est un érudit qui est beaucoup nourri d'un certain nombre de choses, et je pense qu'il va être tout à fait à sa place pour la conférence de ce soir. Merci Jean-Michel.
Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Une nouvelle fois, puisque je suis déjà venu dans cet espace parler d'autres sujets, mais qui n'étaient pas nécessairement différents dans leurs principes et dans leur approche de ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'ai visité l'exposition qui a été organisée, puis je me suis dit, en regardant l'exposition, je me demande si le racisme n'est pas intrinsèquement une composante du rapport de l'homme avec les autres. En particulier lorsqu'on regarde les humanités telles qu'elles ont existé, et en particulier la coexistence qui, pendant un certain temps, s'est imposée entre Néandertal et Sapiens Sapiens, on a une petite interrogation qui consiste à se demander si ce n'était pas dans les gènes de Sapiens Sapiens de faire qu'à un moment donné, la Terre était tellement importante pour lui qu'il faisait disparaître ceux qui ne lui ressemblaient pas intégralement. Et j'ai eu cette émotion aussi, cette appréhension de la réalité du racisme de façon encore plus physique lorsque j'ai eu le privilège de visiter la vraie grotte Chauvet. Puisque j'ai eu l'avantage de la visiter avec Jean-Claude, le préhistorien, parce que le ministère de la Culture m'avait saisi pour me préoccuper du transfert de la grotte à l'État dans le cadre d'une procédure d'expropriation. Et lorsqu'on entre dans la grotte Chauvet, il y a à l'entrée des traces rouges, des traces d'ocre rouge, dont on peut supposer qu'elles aient une origine néandertalienne. Ce n'est pas attesté, mais grosso modo, ces traces d'ocre rouge, c'est moins de 30 000, donc on est à la limite de la disparition de la présence néandertalienne en Europe. Et on s'aperçoit qu'immédiatement après, il reste quelques petites traces, mais toujours recouvertes par des traces noires, qui sont des traces de dessins qui sont incontestablement des dessins de Sapiens. Donc, est-ce que cette réalité du racisme ne serait pas une des composantes de ce qu'est l'espèce humaine ? Hélas, lorsqu'on aborde la question du racisme, on peut avoir d'abord la tentation de considérer que c'est un problème qu'on vient d'aborder sur le mode historique, avec un hier et un avant-hier honteux dont on se rassurerait en se disant qu'on est parvenu à le dépasser. Qu'il y a effectivement des postures racistes, qu'il y a eu des théories racistes. Lorsque, par exemple, on pose un regard attentif sur un temps qui n'est pas si éloigné que cela de nous, qui est le 19e siècle, on se rend compte que les postures racistes font partie du discours académique. Le principe de l'inégalité des races, enfin, le principe d'abord de la diversité des races, et donc de l'inégalité des races, est considéré comme une évidence. On peut citer toute une série de noms célèbres et un peu crapuleux comme Gobineau, mais ce n'est pas le seul. J'ai croisé, en travaillant sur le fondateur de la Ligue de l'enseignement, Jean Massé, j'ai croisé le dernier ouvrage qu'il a eu l'occasion d'écrire qui s'appelle « Philosophie de poche ». Et dans cet ouvrage, Jean Massé dit « Bien sûr, les hommes sont égaux entre eux, sauf les Bantous ». On en finit de dire « Mais qu'est-ce que tu as contre les Bantous ?» Et il dit « Mais les Bantous, ils ont une constitution physique qui les rapproche des singes. Et à partir de là, on peut considérer qu'ils sont en position d'infériorité. » Mais lorsque Jules Ferry défendait la colonisation au nom de l'industrie et de l'éducation, on ne peut pas admettre nécessairement que son discours ait été un discours totalement raciste, mais il était au moins racialiste, c'est-à-dire qu'il distinguait les espaces humains, non pas à partir de critères biologiques, mais à partir de critères civilisationnels qui laissaient supposer qu'il y avait des inégalités qui étaient de l'ordre de la nature des choses. Et il faut attendre un certain temps pour que le discours change. Or, il change sur le terrain scientifique, le discours. Aujourd'hui, personne, scientifiquement, ne peut affirmer qu'il y a une diversité de races et donc, par-delà cette diversité, une inégalité entre les races. Il y a sûrement des distinctions culturelles qui existent entre les individus. Donc, sur le terrain scientifique, la question est résolue aujourd'hui. Mais à mon sens, elle n'est pas sur le terrain politique. Elle n'est pas sur le terrain politique, elle n'est pas sur le terrain social. Et on se rend compte que, en Europe, en dépit de ce qu'a été la catastrophe qui s'est déroulée entre 1933 et 1945, des discours peuvent être tenus par tel ou tel responsable politique qui se situe dans des ornières identiques à celles qui ont été celles adoptées par les responsables des catastrophes que le continent européen a connu. Et le continent européen n'est pas le seul. On a parfois tendance à considérer que le continent européen aurait un petit peu le monopole des postures idéologiques racistes, dès lors que ce racisme trouverait ses racines dans l'essence des monothéismes. Qui postule l'existence d'un en-dedans et d'un au-dehors, et dès lors qu'on considère que la relation des individus entre eux est fondée sur l'en-dedans et l'au-dehors, même si l'un et l'autre ne sont pas déterminés par des différences biologiques, on admet que celui qui n'est pas dedans doit être considéré comme un ennemi, et à ce moment-là, objet d'un traitement raciste, ce qu'a notamment démontré le développement de l'antisémitisme. Donc, on pourrait considérer que c'est un petit peu l'ordinaire des monothéismes qui se sont essentiellement développés dans le bassin méditerranéen, en Europe, initialement. Mais ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Birmanie, est du même ordre. Or, la Birmanie est un pays bouddhiste. Ce qui se passe en Inde avec le gouvernement Modi est du même ordre, puisque l'Inde est un pays hindouiste et l'hindouisme polythéisme génère un racisme anti-musulman qui a fait des milliers de morts depuis un certain temps. Alors on peut se demander quelle est la raison de ce phénomène. Comment se fait-il qu'il y ait cette sorte de récurrence raciste en dépit des progrès scientifiques qui nous amènent à considérer qu'il n'y a pas de race humaine? Comment se fait-il que dans tel ou tel lieu géographique, dans tel ou tel espace, il y a des comportements qui aboutissent à considérer que les hommes ne sont pas égaux et que certains sont en quelque sorte meilleurs que d'autres. Il me semble que la raison est à rechercher dans ce qu'on pourrait appeler le réveil identitaire. Alors, la question de l'identité est une question compliquée. C'est d'abord une question philosophique bouleversante, celle de l'identité personnelle d'abord. C'est même une des questions centrales de la philosophie occidentale. Depuis Aristote, on admet qu'il y a une identité numérique, une identité qualitative entre lesquelles on arbitre en permanence, auxquelles Paul Ricoeur a ajouté une identité narrative qui dit grosso modo l'identité n'est pas un donné mais se construit au fil du temps, elle se construit au contact des idéologies qu'on rencontre, au contact des rapports humains qu'on peut nouer. Elle n'est pas figée, donc elle est un peu liquide, cette identité. Donc c'est une question fondamentale que celle de l'identité, mais on se rend compte que, autant c'est un sujet philosophique profond, lorsqu'on la rapporte à l'individu, autant elle devient un sujet polémique lorsqu'on la rapporte à une collectivité. Lorsqu'on considère que l'identité, ce n'est pas uniquement une identité personnelle, mais l'identité d'un groupe humain. Alors, dans cette identité d'un groupe humain, on constate que elle peut avoir une vertu, l'identité. L'identité peut avoir une dimension émancipatrice. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est le résultat d'une démarche identitaire. Je me reconnais autonome et je demande à ce qu'on reconnaisse la possibilité pour moi de revendiquer une indépendance alors que je suis sous la botte d'une domination coloniale. Toute la décolonisation s'est faite au nom de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais elle peut aussi être la pire des choses, l'identité. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, du débat sur l'identité nationale qui s'est déroulé en France entre 2007 et 2012, au cours duquel on a été amené doctement à réfléchir sur ce qu'était l'identité française. Pas l'identité de la France, hein, celle dont parle un grand historien, Fernand Braudel. Non, l'identité nationale. Qu'est-ce qui aujourd'hui caractérise le fait d'être français? On a très vite vu que la réponse, elle était simple. L'identité de la France est ancrée sur son histoire judéo-chrétienne. Ce qui signifie que ceux qui n'entrent pas dedans, pour reprendre la formule d'Augustin, contraint-les d'entrer, hein, la fameuse théorie contre laquelle s'est élevé Pierre Bayle au début du XVIIIe siècle, ben, ceux qui n'entrent pas dedans, il faut soit qu'ils fassent acte de capitulation, ou soit acte d'invisibilité, soit qu'ils acceptent de ne plus être eux-mêmes parce que leur présence est socialement dérangeante, soit qu'ils acceptent d'entrer dans la logique d'union qui en ferait des éléments de cette identité judéo-chrétienne. Sauf que cette recherche identitaire, elle a une dimension paradoxale. Parce qu'on pourrait penser que l'identité, elle ne s'affiche, elle ne s'affirme que lorsqu'elle est évidente. On se rend compte que les réactions identitaires sont souvent des réactions qui se construisent dans un ensemble relativement homogène. Je donnerai quelques exemples pour vous démontrer la complexité de la démarche identitaire. On évoque souvent comme manifestation la plus tragique du racisme au XXe siècle, la Shoah. Certes. Sauf que le développement du racisme antisémite en Allemagne est paradoxal. Pas paradoxal du fait de la personnalité de celui qui a été l'acteur principal. Paradoxal du fait de la situation de la société allemande. La société allemande était celle au sein de laquelle la judéité s'était progressivement fondue. dans l'ensemble allemand, et il y avait une quasi-disparition de la singularité juive au sein de la société allemande, ce qui n'était pas le cas en Europe centrale, où là, au contraire, il y avait le maintien d'une véritable identité revendiquée de la part des communautés essentiellement askénazes de l'Europe centrale. Or, c'est dans le pays où la singularité avait le plus été gommée que la démarche d'identification négative s'est développée. Et certains disent, le propos n'est pas de moi, mais il est d'Alain Finkielkraut, qui dit si on a imposé le port de l'étoile jaune, c'est certes parce que c'était un signe d'ignominie particulier qui était porté par la communauté juive, mais c'était pour les reconnaître. S'il n'y avait pas l'étoile jaune, comment distinguait-on un juif d'un Allemand ? Ils avaient les mêmes comportements alimentaires, les mêmes attitudes, la même indifférence religieuse, très souvent. Et c'est précisément dans des ensembles où très souvent le lien social est le plus construit que la démarche identitaire est la plus importante. Comme si finalement on cherchait à ethniciser ce qu'on voulait écarter. L'ethnicisation est destinée à démontrer ce dont je veux me séparer. Et on peut donner un autre exemple. L'exemple de ce qui s'est joué en Yougoslavie dans les années 90. Qu'est-ce qui distinguait un Croate, un Serbe et un Bosniaque ? Physiquement, pas grand-chose. Culturellement, pas grand-chose non plus. Ils parlaient la même langue, puisqu'ils s'étaient retrouvés au début, plutôt à la fin du XVIIIe siècle, pour créer la langue serbo-croate et pour créer une identité particulière, là aussi, contre les prétentions impérialistes de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire ottoman. Et ils avaient vécu cette fédération des Slaves du Sud dans une logique finalement relativement harmonieuse. Certes, sous la contrainte qui avait été imposée par le titisme, mais il n'y a pas de vraie distinction. Or, en 1990, il a bien fallu trouver une raison pour se taper sur la figure. Or, la raison, ça a d'abord été la raison religieuse. Il y avait les catholiques, les protestants, les catholiques, les orthodoxes et les musulmans. Et c'est à partir d'une valorisation du sentiment religieux qu'on a assisté à un phénomène d'identification des différentes communautés au sein de la Yougoslavie. Alors qu'il y avait antérieurement une forme d'harmonie dans ces régions-là. Troisième exemple. On vous dit souvent en France, parmi les communautés étrangères, il y a deux catégories. Il y a celles qui s'intègrent et celles qui ne s'intègrent pas. Et on vous affirme de façon péremptoire, les gens du sud-est asiatique sont parfaitement intégrés, alors que les musulmans ne le sont pas. Enfin, pas les musulmans, alors qu'essentiellement les nord-africains ne le sont pas. Une ineptie. Les gens du sud-est asiatique sont sûrement parmi les populations les moins intégrées. Ils ne recherchent d'ailleurs pas à être intégrés, ce n'est pas leur préoccupation. Ils cherchent à se faire oublier. Nuance importante. Et ils considèrent qu'en se faisant oublier, ils n'auront pas de problème avec leur environnement. Allez dans le 13e arrondissement de Paris, vous verrez comment s'opère ou ne s'opère pas l'intégration de ces communautés. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème d'ordre public, mais il n'y a pas l'once d'une intégration. Les communautés d'Afrique du Nord sont parfaitement intégrées. Elles ont fait une démarche d'intégration. Une démarche d'intégration qui est commencée par les premières générations. Parfaitement silencieuses sur le terrain religieux. Personne ne disait rien. Souvent, c'était une immigration masculine, de travail, pour alimenter les Trente Glorieuses et le capitalisme occidental. Ensuite, il y a eu le regroupement familial en 1973 et les familles sont venues. Ça n'a pas changé grand-chose. Sauf qu'ils ont fait des enfants. Ils en ont fait avant, d'ailleurs, puisque les premières générations ont pratiqué très largement le mariage mixte. Dans certaines régions où ils étaient parfaitement implantés, je pense à Sochaux, enfin dans les régions essentiellement de l'industrie automobile. ils se mariaient ou ils avaient des rapports avec des personnes de l'autre sexe, de leur environnement géographique. Ils avaient une vie normale. Et puis, il y a le regroupement familial. Donc, il y a eu des femmes musulmanes, des femmes venues d'Afrique du Nord qui sont arrivées. Aucune revendication religieuse non plus. C'était le moment de l'islam des caves. Aucune singularisation physique. Et puis, sont arrivées les deuxièmes générations. Des gens qui étaient français, ce n'étaient pas des étrangers, eux. Ils avaient la nationalité française. Et ils sont aperçus que la promesse de l'égalité républicaine qui est offerte par les textes constitutionnels, elle peinait à s'imposer. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ben, ils ont dit, vous voulez qu'on nous voit, on va nous voir. Et il y a eu un phénomène d'islamisation de la communauté musulmane française, enfin, de la communauté nord-africaine française, en disant, mais on veut être reconnu. Et en fait, si on ne veut pas nous reconnaître comme citoyens à égalité de droit par rapport aux citoyens bien blancs, les cheveux non frisés, la peau claire, ben on va dire qu'on existe. Et une bonne partie aujourd'hui de la singularisation du phénomène tient précisément au fait que la communauté nationale dans sa globalité n'a pas offert la réponse de l'égalité républicaine. Ce qui en retour d'ailleurs a provoqué une double crispation. Crispation communautaire d'un côté, crispation autour de l'identité nationale de l'autre. Donc on s'aperçoit très fréquemment que les démarches identitaires, les stratégies identitaires sont des stratégies qui naissent dans des milieux où les phénomènes d'intégration sont les plus forts. Ce qui les rend douloureuses, ces stratégies identitaires, qui fait que elles peuvent aboutir à des situations dramatiques. Ça aboutit à quoi ? Ça aboutit très souvent à un discours essentialiste. C'est-à-dire un discours où on raconte que l'identité trouve ses racines dans des caractéristiques invariables. On le sait, ça fait partie du langage commun un peu trivial, hein, le polonais ivrogne, le noir feignant, l'arabe fourbe, enfin c'est un petit peu un discours qui est tenu au fond des bistrots. Et aujourd'hui on retrouve à peu près ce même type de phénomène, alors avec des mots différents, mais qui amène à considérer que il y aurait des catégories de personnes qui ne seraient pas intégrables, dont les caractéristiques intellectuelles, historiques, amèneraient à considérer qu'ils n'ont pas la capacité à entrer dans une communauté nationale. Et qu'à partir de là, soit il faudrait leur demander de partir, soit il faut leur demander de faire acte de capitulation. Leur demander de s'engager dans une logique d'invisibilité afin précisément d'être tolérable dans leur présence. À un point tel qu'on peut considérer que l'un des paradoxes de la démarche identitaire constructrice du racisme relève davantage de la ressemblance que de la différence. C'est plus la ressemblance qui pose problème que la différence. Une différence absolue, c'est celle des gens du sud-est asiatique. Ils ne dérangent personne, personne ne les dérange. Mais ils sont complètement extérieurs à la communauté nationale et le regard qu'ils portent sur la communauté nationale est un regard d'extrême-orientaux. Leur choix est précisé. Même d'ailleurs, lorsqu'ils se accèdent à la nationalité française, c'est assez marrant, la stratégie de naturalisation des extrêmes-orientaux et des personnes issues soit de l'Afrique subsaharienne, soit du Maghreb. Les extrêmes orientaux, lorsqu'ils se font une demande de naturalisation, souvent demandent à changer de nom pour devenir invisible. Dans l'arrêté de naturalisation, souvent, ils demandent à avoir un nom occidental. Mais ils ne changent pas du tout de comportement culturel. Ils restent entre eux. Alors, au contraire que les personnes issus de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsaharienne sont extrêmement fiers de conserver leur nom patronymique, leur prénom, et ils transmettent à leurs enfants des noms patronymiques et des prénoms qui sont la traduction de leur origine géographique, en considérant qu'ils ont toute raison d'être fiers d'où ils viennent. Ils en sont partis parce qu'ils avaient peut-être des raisons économiques, climatiques d'en partir, mais ils conservent cette fierté. Ils ne se fondent pas dans la communauté, en général, en disant la fusion qu'on va réaliser relève de l'ordre du lien politique et non pas du lien social. Donc, les racismes actuels ou contemporains sont, semble-t-il, essentiellement construits autour de ces phénomènes identitaires. Et j'en veux un exemple ou une démonstration au travers d'un sondage d'opinion qui avait été réalisé il y a déjà un certain temps, autour de l'année 2000, sur la question des seuils de tolérance. On avait interrogé les Français sur ce qu'ils considéraient comme le franchissement d'un seuil de tolérance. Et en particulier, on leur avait demandé « Est-ce que vous pensez qu'il y a dans votre commune trop d'Arabes ?» Et le résultat est passionnant. Dans les communes où il y avait moins de 1% d'Arabes, où il n'y avait pas d'Arabes du tout, 76% considéraient que le seuil de tolérance était dépassé. Dans les communes où il y avait plus de 10% d'Arabes, on était à 45%. C'est beaucoup déjà. Mais 76%, ils n'ont vu des Arabes, si je puis dire, qu'à la télévision. C'est intolérable. Le seuil de tolérance est franchi. Par contre, lorsqu'ils vivent avec eux, lorsqu'il y a une sociabilité qui se crée, bah, il y a 45% de personnes qui ont un problème. Alors, ce n'est peut-être pas 45% de racistes, mais il peut y avoir des personnes qui ont une difficulté à admettre la différence culturelle. Ce qui démontre bien très souvent qu'on est en présence d'une démarche fantasmatique autour de cette réalité. Alors, est-ce que par rapport à ce phénomène, on peut éventuellement articuler des réponses? À mon sens, il n'y a pas une seule réponse, il y en a plusieurs. Il y a d'abord une réponse philosophique. Nous avons tendance très souvent à raisonner en termes d'universel. Et nous considérons qu'il existerait un universel auquel tout le monde devrait se conformer et que tout le travail à conduire est un travail pédagogique afin que chacun perçoive les vertus qui sont celles de ce prétendu universel. C'est quoi l'universel ? Le fameux universel des Lumières, hein, universel émancipateur, auquel, bien sûr, on a toute raison d'adhérer. Sauf que je suis assez d'accord avec Jacques Derrida lorsqu'il disait « L'universel, c'est une mythologie blanche, hétérosexuelle, au nom de laquelle a été conduite la colonisation. C'est notre universel. C'est un universel particulier. » On peut lui appliquer les mêmes réserves que celles qu'on peut appliquer à l'universel auquel prétendent les religions. Une religion, ce n'est pas un universel. Il y a un en dedans, un en dehors. Il y a une orthodoxie, une hétérodoxie. Et si on n'est pas dans l'orthodoxie, on est, comme le disait Augustin, contraint d'entrer, forcé de se convertir. Et c'est un peu la même chose que on met en avant lorsqu'on parle d'universel. On considère que ceux qui n'y participeraient pas, il faut les convaincre, les éduquer, afin qu'ils partagent les valeurs de l'universel. Or certes, j'y reviendrai, la notion d'universel n'est pas négligeable, mais il est aujourd'hui, me semble-t-il, dangereux de considérer que dans un monde pluriel, il n'y aurait que la vision européenne centrée qui aurait une légitimité. Parce qu'à la limite, ça peut être celle de Trump, la vision européenne centrée ou occidentale centrée. La vision du petit blanc américain, du Middle West, profondément raciste, qui n'accepte pas de vivre en contact avec une population noire. Alors, que faire si on a des difficultés avec l'universel? Comment essayer de se sortir de cette difficulté? Comment faire que dans un monde à l'évidence multiculturel, les gens puissent se considérer comme étant à égalité de droit? Mais il y a un philosophe qui dit des choses fort intéressantes sur le sujet qui s'appelle, vous le connaissez peut-être, François Julien. Philosophe intéressant parce qu'il a l'immense avantage d'être à la fois helléniste et sinologue. Donc, il est incollable sur Aristote, mais il est tout aussi incollable sur Confucius. Et il a développé une théorie que je fais mienne parce que je la trouve à la fois subtile, bien que complexe à mettre en œuvre. Il dit en réalité, les uns et les autres, en fonction de nos origines, en fonction de nos appartenances, sommes des ressources de sens, sommes des contributeurs à la construction d'une sociabilité commune, sans privilège pour les uns ou pour les autres. Et plus la société devient multiculturelle, plus il apparaît intéressant d'interpeller, d'interroger les écarts, les entre quelque chose, entre les ressources de sens. Qu'est-ce qui finalement, entre une ressource de sens occidentale et une ressource de sens orientale, est de nature à faire sens commun? Donc comment, en quelque sorte, à partir de ressources de sens différentes, créer non pas de l'universel, mais du commun, une commune sociabilité, or certes évolutive, en fonction des ressources de sens auxquelles on est confronté, mais qui permet à une société de se tenir debout. Alors, est-ce que pour cela, il faut renoncer à l'universel? Sûrement pas. Mais en considérant que l'universel, ce n'est pas une injonction. Je préfère d'ailleurs un terme à celui d'universel, c'est celui d'universaux. Vous avez sûrement entendu ce terme un peu vieilli, qui est un terme utilisé dans la pensée médiévale. Alors, c'était quoi les universaux dans la pensée médiévale? C'était des invariants, c'est-à-dire des éléments autour desquels tout le monde devait nécessairement être d'accord, mais qui n'avaient d'intérêt que comme référence à partir de laquelle on construisait des recettes concrètes de vie en commun. L'égalité fait partie des universaux. La liberté en fait partie. Enfin, il y a des éléments dont on peut considérer qu'ils font partie des universaux. L'égalité homme-femme fait partie des universaux. Mais ce sont des universaux qu'on peut mettre en œuvre qu'à partir du moment où cette mise en œuvre est volontaire, qu'à partir du moment où cette mise en œuvre est la conséquence de ce débat subtil entre des ressources de sens qui font que du commun se construit. Ça, me semble-t-il, c'est peut-être la première démarche. Elle exige un important désarrimage. C'est-à-dire que c'est confortable de dire notre déclaration du 26 août 1789, c'est la Bible devant laquelle tout le monde doit capituler ou doit se mettre à genoux. Oui, bien sûr, les mots qu'elle utilise sont fabuleux, c'est les mots utilisés en 1789. Mais ce qui est important, c'est de voir la façon dont ces mots sont entendus par d'autres. Et c'est précisément dans cet écart ou cet entre que l'on arrivera progressivement à tisser du commun. Je pense qu'il y a une autre aussi nécessité qui est celle d'interpeller les espaces au sein desquels s'expriment les identités. Est-ce qu'il faudrait, pour que les identités ne soit plus source de racisme, de discrimination, qu'on fasse disparaître les singularités de l'ensemble des comportements individuels. Le débat a eu lieu en France, c'est le débat sur les vêtements, sur la façon de s'habiller. C'est un débat qui a touché la question de la laïcité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir l'intelligence de considérer que contrairement à ce que disent certains, il n'y a pas un espace public et un espace privé. Certes, il y a l'espace de l'intimité, et il y a l'espace du forum. Ça, on voit à peu près ce que c'est. Mais il y a des zones grises. Et ces zones grises, on en fait quoi ? Je prends un exemple. Le mariage, c'est quoi ? C'est public ou privé ? C'est les deux. Il y a un ordre public matrimonial qui fait qu'il y a des normes qui doivent être respectées par tout le monde et qui ont changé au fil du temps. Mais le mariage a aussi une dimension d'intimité. C'est la relation entre deux personnes dans un espace singulier qui est l'espace du foyer. Et il y a d'autres exemples que l'on peut donner également de cette existence zone grise. Sortons de la vieille dichotomie qui avait été imposée par Aristote entre la maison et le forum. Il y a entre les deux la rue, il y a des espaces où l'on se rencontre de façon, comment dirais-je, un peu accidentelle, où on interpelle quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est précisément dans cette capacité à pouvoir agir, fonctionner, se rencontrer sans présupposer, sans construction préalable, que précisément on peut déconstruire les images qu'on peut avoir sur les autres. Il faut, me semble-t-il, en troisième lieu, que l'on fasse confiance à l'éducation. Et je vais vous citer, je l'ai retrouvé l'autre jour, une phrase que je trouve à la fois... Alors, je ne la cite pas tout à fait de mémoire parce que je l'ai noté, j'avais le souvenir d'un ouvrage, une phrase de Jacques Lacan que je trouve, je voulais dire comme je l'ai réinterprétée, mais je la trouve extrêmement intéressante. Il dit « Il faut que nous apprenions à retrouver suffisamment de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. » Ça veut dire quoi ? Il faut que nous apprenions à retrouver suffisamment de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. Qu'est-ce qu'il nous dit Lacan ? Il nous dit tout simplement que c'est en utilisant le média de la parole, la capacité de parler, de dire les choses, qu'on arrive à dépasser les limites, les frontières, les impossibilités apparentes qui sont les nôtres. Et c'est comme ça que l'histoire continue, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on arrive à poser des éléments du progrès, à la fois collectif ou individuel. C'est en continuant de se parler. Et on se parle pour se dire quoi ? Pas simplement qu'on s'aime, encore que c'est pas inutile, mais pour se dire aussi ce qu'on sait et pour être en capacité, au travers de la confrontation des savoirs, de mettre en œuvre une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Il n'y a rien de pire que les peurs et les incompréhensions ou les méconnaissances. Et c'est au travers précisément d'une mise à plat de ce que nous sommes, au travers à la fois de l'élucidation de ce qui nous construit, et au travers de l'élucidation de ce qui nous fait vivre, qu'on parvient précisément à nouer des liens intelligents avec les autres. Je pense, en quatrième lieu, qu'il est important que les structures surplombantes auxquelles nous faisons confiance, je pense à la République en particulier, que ces structures se montrent aimables. Bien sûr que la République, par principe, est aimable. Elle est aimable et généreuse, la République. Sauf qu'elle est aimable et généreuse à la hauteur de ceux qui la représentent. Et le véritable danger, c'est qu'une République incertaine d'elle-même considère que la seule façon de traiter les problèmes sociaux qu'elle rencontre, c'est de poser des interdits. Bien sûr qu'il faut des interdits. À condition, bien sûr, qu'il soit démocratiquement débattu. Aucune société ne fonctionne en l'absence d'interdits. Mais par contre, il faut se refuser à considérer que l'interdit est la seule réponse possible à une situation qui nous dérange. Et là, on revient à l'éthique du débat. Lorsqu'on est dérangé par quelque chose, il vaut mieux en parler quand même, avant de savoir si on l'interdit. Parce qu'on se rend compte d'abord que, en débattant, on peut apporter des réponses. Et que peut-être le dérangement qui nous avait un petit peu affecté nous fait un peu grandir aussi. Parce que tout simplement, c'est un moyen aussi de comprendre une situation qui nous dérangeait parce que nous ne la comprenions pas. D'où l'importance précisément de demander à la République, entre autres, chaque fois que c'est possible, d'être le plus généreuse. Pour précisément permettre à chacun d'avoir cette capacité d'appréhender le présent ou le futur dans des conditions qui soient parfaitement respectables. Et puis enfin, je pense qu'il faut faire confiance à la durée. On a une vraie difficulté très souvent, et on le voit très bien, cette difficulté. Relisez les discours de Matteo Salvini, d'Hector Orban, de Kaczynski en Pologne, enfin je pourrais les citer tous, malheureusement, parce que la tache brune s'étend, hein. Elle s'est étendue sur une bonne partie de l'Europe, elle a gagné les États-Unis, le Brésil il y a quelque temps, puis je pourrais multiplier les exemples. Ce qui est important dans ce que disent ces gens-là, c'est le fait qu'il faut immédiatement trouver une solution qui permette de résoudre la difficulté qu'on rencontre. Il faut immédiatement trouver une modalité interdisant aux migrants de venir. Renvoyez-les chez eux. Fussent-ils la quarantaine de migrants qui dérivent sur l'Aquarius, hein, qu'on se partage en X états et dont on s'honore de recevoir une dizaine. La réponse qu'ils donnent, ces populistes, est toujours la même. Premièrement, dormez tranquille, on s'occupe de tout. Deuxièmement, si on met en œuvre les solutions que l'on vous propose, vous aurez immédiatement une réponse. Alors c'est vrai que ces réponses, on voit bien à quoi elles ressemblent. Ça peut être la création d'un camp de concentration, ça peut être la mise en œuvre d'une logique de stigmatisation d'une catégorie particulière, qui partira de chez vous parce que, tout simplement, elle se mettra à l'abri. C'est les Rohingyas qui partent de Birmanie pour partir au Bangladesh. Je suppose que le Bangladesh n'est pas un lieu édénique où on puisse considérer que la prospérité soit du jour au lendemain acquise à ceux qui s'y réfugient. Mais la réponse de ces gens-là est une réponse extrêmement rapide et caricaturale. On a la réponse, dormez tranquille, on s'occupe de tout. Et la réponse, elle aura une efficacité immédiate. Sauf que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Les réponses rapides sont des réponses qui, précisément, se fondent sur la volonté d'apporter une catégorisation forte des individus, migrants, non-migrants, riches, pauvres. Enfin, on crée des catégories simples. Et à partir de ces catégories, on développe des solutions. Il n'y a pas de solution qui ne s'inscrive pas dans la durée. Tout simplement parce que la durée, c'est la durée de l'éducation, la durée, c'est la durée de l'apprivoisement, la durée, c'est la durée de l'accomplissement. Et tant qu'on n'aura pas pris la conscience du fait que rien ne se résout de façon spontanée et immédiate à partir de recettes toutes faites, tant qu'on n'aura pas compris ça, on se retrouvera face à ces solutions un petit peu immédiates, reposant sur les recettes identitaires. Il y a mon identité judéo-chrétienne en Europe, et c'est devant cette identité que les gens doivent faire acte de capitulation. Et s'ils ne capitulent pas, c'est qu'ils ont tort. Et s'ils ont tort, il faut qu'ils partent. Parce qu'ils viennent manger notre pain. Donc à partir de ce moment-là, ils viennent troubler l'ordre public. Donc voilà quelques réflexions sur ces problématiques contemporaines du racisme. Le débat est ouvert.
Donc voilà, le micro est à votre disposition pour vous faire part de vos réactions. Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Merci. La première question.
Bonsoir. Donc, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un exemple d'affrontement du racisme que j'ai rencontré. J'interviens au titre d'Amnesty et faire d'éducation aux droits humains. Donc, en cinquième, nous étions à Neuville. Et le jeu, c'était j'interviens ou j'interviens pas. Et les situations où les gamins disaient « Ah là, je ne peux pas intervenir », c'était dans la famille, lors d'un repas familial. Mais il y avait des petits malins qui se sont servis de la durée et de la parole. Il y en avait qui essayaient de donner un argument et de s'en aller. Et d'autres qui disaient « C'était pas le moment, mais je le lui dirai ». Donc vous voyez, certains, les gamins, ont compris l'importance de la durée dans une certaine lutte. Voilà.
D'autres
D'abord, une réflexion pour dire que l'identité judéo-chrétienne, c'est quand même une grosse plaisanterie. Parce que quand on voit ce que les chrétiens ont fait aux juifs sur le territoire de l'Europe, on peut difficilement s'en prévaloir. Et d'autant plus que pendant tout un temps, l'Église catholique a banni l'Ancien Testament de ces textes. Alors ça, c'était pour l'observation. J'aurais plein de trucs à dire, mais je ne vais pas tout dire d'un coup. Mais pour la question du commun et de l'universel, j'adhère tout à fait. Parce qu'effectivement, chacun est au centre, chacun a son univers dont il est le centre, en gros, qu'il s'agisse d'un individu ou qu'il s'agisse d'un groupe, qu'il s'agisse d'un groupe. Ce qui nous manque aujourd'hui pour faire du commun, me semble-t-il, c'est un récit. Parce que quand on entend qu'il y a 40% de la population qui accepte le principe que notre système politique devienne autoritaire et peu démocratique, ça veut dire que l'idée démocratique et républicaine qui faisait sens pour plein de gens, qui constituait un récit, ne joue plus. Et là, on est un peu en panne, me semble-t-il, de récit. Vers quoi on va en commun entre gens si différents ?
Là, je peux apporter, enfin, pas une réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse, malheureusement, sur le sujet. C'est un vrai questionnement aujourd'hui. Et c'est notamment un questionnement autour d'un terme qui, personnellement, me dérange, je l'utilise assez peu, qui est le terme de populisme. Et notamment, Chantal Mouffe, que tout le monde a, enfin, tout le monde a entendu parler, cet universitaire belge qui a été celle qui, semble-t-il, a contribué à la construction du programme d'un des partis politiques français de gauche, dit à peu près ceci. Elle dit, oui, aujourd'hui, on assiste à un épuisement démocratique lié à une maladie interne à la démocratie. Il y a d'ailleurs un universitaire américain qui s'appelle Lila, qui est prof à la Columbia, qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Le gauchisme identitaire », dans lequel il dit « La défaite d'Hillary Clinton aux États-Unis est essentiellement liée au fait qu'elle a passé son temps à défendre les minorités. Que, en fait, il n'y a plus d'intérêt général et que le camp du progrès, en quelque sorte, est pour voir large, est aujourd'hui incapable, c'est un peu le discours de l'ouvrage, je ne dis pas que je le partage intégralement, est incapable d'avoir un récit global qui permette de tenir en quelque sorte un propos d'intérêt général ou sur l'intérêt général. Ça me paraît un peu rapide. Ça me paraît un peu rapide parce que ce n'est pas vraiment ce qui se joue aujourd'hui. Je pense que c'est moins un épuisement démocratique qu'en fait une incapacité à régler la question sociale. Et c'est cette difficulté à traiter la question sociale qui, me semble-t-il, aujourd'hui, est de nature à provoquer ces émergences. Je ne suis pas un fanatique des théoriciens de la France périphérique, mais enfin, allez y voir. Enfin, moi, j'ai la chance, dans le cadre de mes fonctions antérieures et actuelles, d'avoir fait plusieurs fois le Tour de France. Et donc quelques jours, enfin quelques semaines plutôt, je serai dans le Pas-de-Calais à nouveau, à Hénin-Beaumont, à Lens, à Arras, là où aujourd'hui le chef de l'État fait une promenade mémorielle, en évoquant Pétain. Je fais ma parenthèse. On sent bien ce qui se joue là-dedans. C'est un phénomène d'abandon. Les gens, ils ne sont pas contre la démocratie. Mais ils disent souvent, mais qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Et pour beaucoup, et on a le problème aussi en Italie un petit peu aujourd'hui, il y a un discours qui tente à se développer en disant, pourquoi on n'insérait pas ça ? Ce n'est pas un refus démocratique. Parce qu'on s'aperçoit que ces pouvoirs populistes se mettent en place par le biais de la par des procédures démocratiques. Ce qui manque aujourd'hui, au-delà du récit, qui effectivement est un élément important, c'est l'architecture des valeurs. Et je reviendrai sur la notion d'identité, mais sur le terrain philosophique, en évoquant l'identité narrative de Ricoeur. C'est un peu compliqué, je ne veux pas entrer dans le détail de soi-même comme un autre, mais Ricoeur a cette... Enfin, je résume la pensée de Ricoeur. Vous savez peut-être, si vous avez eu l'occasion de croiser Ricoeur, qu'il a deux... Comment dirais-je ? Deux termes pour définir l'identité. Il dit l'identité, c'est de l'ipséité de la même-té. Alors, je traduis. L'ipséité, c'est moi-même. Et la même-té, c'est ma ressemblance. En clair, il dit l'identité, c'est de la similitude et de la ressemblance. C'est riche comme vision des choses. En clair, j'existe comme individu, mais j'existe comme individu semblable aux autres. Donc, je suis dans une relation. En clair, comment être moi-même tout en devenant semblable ? Ou comment être semblable tout en restant moi-même ? C'est ça le problème aujourd'hui qui se pose. Et on se rend compte que le hiatus, c'est là. C'est que chacun sait ce qu'il est, mais il a une difficulté à se sentir semblable. Et c'est précisément ce hiatus entre même-té et ipséité qui, aujourd'hui, fait une véritable difficulté. Et ce qui manque, c'est ce que vous appelez le récit, ce que Ricoeur appelle la dimension narrative de l'identité, qui fait qu'on s'identifie ou on acquiert une identité, non pas instantanée et définitive, on l'acquiert au travers de ce qu'on vit, au travers de ce qu'on croise, au travers du contact avec les autres. Et aujourd'hui, il y a, je prends un exemple, la France périphérique. Comment expliquer le fait qu'elle adopte ce comportement qui l'amène souvent à 50 km de la grande ville à voter Front National ? Ben, essayez de vous mettre dans la tête. Ce sont des gens dont les deux membres du couple travaillent parce qu'ils ont acheté une maison. Ils voulaient être propriétaires. Tout à fait légitime. C'est impossible d'être propriétaire dans une grande ville. Ça coûte trop cher. Donc, ils ont emprunté. Ils ont tous les deux travail et ils habitent à 30 km, 40 km de la grande ville. Ils ont deux voitures. Alors, je ne parle pas du 17 novembre, mais ils ont deux véhicules, donc ils ont des charges particulières. Comment se passe leur journée ? Ils partent le matin vers la grande ville, ils arrivent, ils font leur travail, ils rentrent le soir. Ils ne consomment pas une once de culture que la grande ville va offrir. Par contre, leur petite commune n'offre pas de réponse culturelle. Quelle est leur distraction ? C'est la télévision le soir. Et en réalité, c'est les seuils de tolérance. Ils mesurent les seuils de tolérance par rapport à ce que leur dit la télévision. Sauf qu'entre-temps, le matin et le soir, ils traversent ce qu'on appelle les quartiers, en disant, mais attendez, ils sont en ville, ils vivent d'aide sociale, nous on trime comme pas possible, ben, on va voter Front National. Parce que le Front National nous promet de faire taire ce qui nous dérange, à savoir ces personnes autour desquelles on fantasme. Ils ont leur récit à eux. Et il suffit que, pour ces personnes-là, un soit malade, ou soit au chômage. Mais comment on rembourse les traites de la maison ? Comment on paye la deuxième voiture ? Et c'est la dégringolade sociale. Promenez-vous à Hénin-Beaumont, vous comprendrez tout de suite. Hein, c'est des familles de mineurs qui se souviennent de la mine telle que Zola l'a racontée dans l'imaginaire ouvrier de ces bassins du nord de la France. Et contre ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, si, l'éducation, mais comment les rattraper parce qu'on voit très bien comment ils construisent, eux, leur récit. Ils sont aujourd'hui, me semble-t-il, le seul récit qu'ils acceptent d'entendre, c'est un récit de la revanche. Qui est-ce qui va nous permettre d'obtenir la revanche que nous méritons comme petits blancs? C'est la ceinture de rouille aux États-Unis, c'est le vote Trump, hein, il est clair. Hein. Alors, lorsqu'on entend ce que disent ces gens-là, ça fait froid dans le dos. Mais c'est un peu ce qui se produit aujourd'hui. Et on a quelques difficultés à inventer le récit qu'on pourrait leur raconter, qui permettrait précisément de faire que la démocratie ne soit pas des procédures. Aujourd'hui, ils vous diront d'ailleurs qu'ils sont démocrates. Mais pourrait la démocratie être une procédure permettant de virer ceux qui les auraient trahis? Ils ont la démocratie sans les valeurs démocratiques. Ils veulent la République avec la capacité d'interdire aux autres d'exister. Par contre, l'histoire de la République ou l'histoire de la démocratie, ils s'en moquent complètement. Mais c'est vrai, c'est une considérable difficulté.
Je voulais vous poser une question sur le côté universel que vous avez abordé. Notamment, par exemple, en sociologie, on considère, enfin, je suis étudiante en sociologie, et on considère que quand on crée une catégorie, on crée de facto la catégorie des 100, et du coup, qu'on rentre dans une perspective de ciblage. Ça veut dire que, par exemple, on crée une catégorie, donc il y a cette aide-là pour cette catégorie-là. Alors, du coup, on considère que les catégories, c'est pas les meilleures, enfin, c'est pas la bonne chose et la bonne perspective socialement. Et du coup, on prône l'universalisme. Alors, je trouve très intéressant votre façon de dire, plutôt parler de commun, et je voudrais que vous développiez un petit peu sur ce chemin-là, ce que vous pensez.
Alors, je suis tout à fait d'accord sur la question de l'universel. Effectivement, on peut l'aborder par tous les biais philosophiques, sociologiques. L'universel pose problème, parce que l'universel, quelqu'un le construit. Donc, l'universel, c'est le produit de celui qui décide que c'est l'universel. Dans les religions ou l'universel des lumières, hein, universel de la raison. Alors le commun, c'est quoi? Le commun, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble sous l'éclairage d'universaux. Enfin, c'est un peu compliqué ce que je dis. Vivre en commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de vivre avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes préoccupations que nous, sans que cela devienne sujet de polémique. Et pourquoi ce n'est pas sujet à polémique? Parce que tout simplement, on a ce parachute que représente ce que j'appelais ces invariants que sont les universaux, qui fonctionnent un peu à rebours de l'universel des Lumières. L'universel des Lumières, c'était un universel devant lequel il fallait capituler. Soit on en était l'auteur et l'acteur, soit on était la victime. C'était l'universel qui a été utilisé au service de la colonisation, la République aux colonies, hein, le bel ouvrage de Manseron sur cette question-là. Alors, c'est pas facile à mettre en place. Ça veut dire aussi qu'on doit admettre qu'une société a une respiration et qu'il n'est pas évident que les éléments qui font sens commun, sans référence sens commun, les petites crapules qui étaient contre le mariage pour tous. Mais il y a des choses qui font sens commun à un moment déterminé qui ne sont pas toujours les mêmes. Je prends un exemple. Il y a 30 ans de ça, la préoccupation environnementale était quasiment absente. Aujourd'hui, on peut faire du commun autour de ça. Parce que tout simplement, c'est le destin de l'humanité qui se joue, le destin de la vie sur la planète qui se joue. Faire du commun, ça signifie être en capacité en permanence de mettre à l'agenda les questions centrales qu'une société se pose parce qu'il y va de sa survie comme société. Mais bien évidemment, on ne peut pas le faire à n'importe quel prix. On ne peut pas avoir une démarche environnementaliste sans avoir égard pour l'égalité sociale. Enfin, je pense que c'est la moindre des choses. Et c'est un peu ça. Les universaux sont ces éléments. J'utilise souvent une formule de quelqu'un que j'aime beaucoup pour avoir écrit beaucoup sur lui, qui est Jean Jaurès. Jaurès disait, il parlait de la justice à ce moment-là, il parlait plutôt de l'engagement, il disait c'est la lumière qui éclaire le chemin sombre qui mène à la justice. Et c'est un peu ça, je pense, les universaux. C'est cette sorte de lumière qui va changer avec le temps, mais cette étoile qui va éclairer la stratégie qu'on va mettre en place, mais qui va être construite à partir de, du grain qu'on a à moudre à un moment déterminé, et qui n'est pas toujours le même. Alors ça veut dire aussi cette référence au commun, alors ça la rend encore plus compliquée cette référence au commun, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité toute faite, et notamment qu'il faut se garder en permanence des logiques, vous êtes sociologue, de reproduction, et pas simplement de reproduction sociale, de reproduction idéologique. Alors ça c'est mon vieux fond gramscien qui revient, je pense qu'il faut savoir de temps en temps créer ce que Gramsci appelait des blocs idéologiques, c'est-à-dire un ensemble de pensées qui nous permettent de comprendre le monde tel qu'il se déroule devant nous, avec cette modestie de considérer que le bloc idéologique que je peux construire à un moment comme intellectuel, ou aider à construire comme intellectuel ou pas comme intellectuel, ce monde ne sera pas le même demain parce que précisément les éléments du bloc idéologique vont changer. Ça exige une vraie plasticité aussi de la démarche intellectuelle.
D'autres réflexions, donc c'est vrai que c'est large. Non, tout le monde.
Il y avait toute une série de questions. Oui,
je vais faire deux interventions et je m'arrête après. D'abord, une observation de mon passé de travailleur social, c'est que les pulsions racistes sont d'autant plus fortes que les gens à l'égard desquels on est agressif, nous ressemble. C'est-à-dire que...
C'est de la ressemblance.
Oui, mais ça joue aussi dans les relations interpersonnelles. C'est-à-dire que dans les UP où j'ai travaillé, je constatais que c'était plutôt les gens pauvres qui avaient finalement les mêmes conditions de vie que les Maghrébins, qui étaient les plus agressifs, comme si c'était pour dire que nous, on est peut-être pauvres, mais on n'est pas comme ça quand même, quoi, voilà, cet écart. Et sinon, je fais mon coming out, je suis président du Cercle Condorcet de la Vienne, et j'ai une supplique à adresser au président de la Ligue de l'Enseignement.
J'écoute.
On part de la laïcité, mais vous allez voir, on va revenir au sujet. Mmh. On a lu dans la presse que le président de la République s'apprêtait à réformer la loi de 1905, ce qui en soi n'est pas, c'est pas un blasphème, je voulais dire, mais enfin, c'est pas un texte... C'est pas un texte sacré et il n'y a pas d'offense, a priori, même quand on est militant laïque, à penser qu'il faille réformer les textes, parce qu'il n'y a pas que la loi de 1905 qui est en cause, qui régissent la laïcité dans notre pays. On apprend que la question centrale est celle de l'islam, ce qui, en tout cas chez moi, n'est pas non plus choquant. Je considère en effet assez facilement que la situation de 1905 avec très peu de musulmans et où il s'agissait massivement de conforter la République contre l'Église catholique qui avait fait un choix différent, qui était plutôt favorable à une restauration, la situation aujourd'hui est radicalement différente. Même si la motivation qu'on entend, c'est de tenir fort l'islam, risque de changer fondamentalement la laïcité. Si l'État se met à s'occuper des religions, on change de base. Alors, à partir de là, il me semble qu'il se pose deux questions. La première question qui ne nous préoccupe pas ce soir, mais qui me fait m'adresser à vous, c'est qu'à l'occasion de ce désir de réforme, comme on a des gouvernants qui ne sont pas forcément très informés et très assurés sur la question de laïcité, on court des risques que, là aussi, on démolisse des choses sans bien savoir ce que ça va produire. Je veux dire, je pense par exemple aux relations du travail dans lesquelles on démolit des choses avec le présupposé que ça va produire des effets positifs, mais sans forcément être très conscient des effets négatifs que ça produit, que ça produira. Bon. Idem pour la laïcité. Et la deuxième chose, c'est que ce qui me ramène au sujet de ce soir, c'est que ce que je redoute, parce que si on se préoccupe de la situation de nos compatriotes musulmans, c'est que ça amplifie les réactions racistes à l'égard de toute personne qui, de près ou de loin, ressemble à un arabe. Voilà. Bon. Dernière considération, j'observe que autour de moi, que la question de la laïcité ne mobilise plus guère, et que même chez des gens qui nous sont proches, le mot laïcité provoque une forme d'urticaire aujourd'hui. Hein, il va encore nous bassiner avec sa laïcité. Donc, du coup, je m'adresse à vous comme je m'adresse à d'autres gens au niveau national en disant, il me paraît fondamental que les gens qui ont les ressources pour bâtir cela fournissent dans les semaines qui viennent, pendant la durée, le temps que durera ce débat, des argumentaires sur cette évolution possible de la laïcité en France. Parce que c'est peut-être, et je finis là, l'opportunité de remobiliser un petit peu notre entourage sur cette question de la laïcité.
Parce que demain paraîtra un communiqué. Le train est un instrument de transport extraordinaire, on prend le temps d'écrire. Donc paraîtra un communiqué qui dira à peu près deux choses. La loi de 1905 n'est pas sacrée, parce qu'elle a été révisée à quantité de reprises sur des points, je ne dirais pas de détails, mais des points d'adaptation au paysage religieux. Il y a cependant, même si elle a été révisée à diverses reprises, même si elle n'est pas sacrée, elle repose sur des principes. Et les principes, ils sont exprimés dans les deux premiers articles de la loi de 1905. Premier, garantit la liberté de conscience et de libre exercice du culte. Article 2, la République, on cite souvent uniquement cet article, ne reconnaît ni salarié ni subvention d'aucun culte. Et ce que dit le communiqué, c'est qu'on peut toucher à tout sauf à ça. Sauf à ce qui constitue l'essence même de la laïcité. Donc c'est le premier élément, ça paraîtra demain en principe. Et je pense que ce sera signé par moi, mais je le soumets aux autres membres de direction de la Ligue de l'enseignement nous arbitrerons demain matin, mais je pense que le texte sera adopté. Deuxièmement, alors ça date d'hier. Je faisais cours à la fac et je fais un cours de 2 heures, donc je m'interromps entre les 2 heures et je vois que Jean-Louis Bianco m'avait appelé. Donc il m'avait laissé un petit message, j'ai pas eu le temps d'écouter le message et je rappelle Jean-Louis Bianco, qui est président de l'Observatoire de la laïcité. Il me dit deux choses. Il me dit j'aimerais bien organiser avec la Ligue de l'enseignement quelque chose de très fort autour du 9 décembre. Je dis, mais je suis ton homme, donc ça va se faire. Et c'est plutôt bien parce qu'il m'a présenté ça comme la volonté pour l'Observatoire d'apporter son concours à l'activité ou à l'action que la Ligue de l'enseignement conduit. Et j'ai trouvé que c'était un bel hommage qu'il nous rendait. Et il a ajouté ensuite, alors il m'a dit, est-ce que tu es informé? J'ai dit, bien sûr, enfin sur les tentations de révision. Alors, il m'a dit, je le cite quasiment de mémoire, il me dit, ils n'y connaissent rien. Et ça, il le tient de Castaner, hein, puisque Alpes de Provence, donc ils sont un peu voisins. Mais ils n'y connaissent rien, il me dit, Castaner m'a appelé, et ils sont très ennuyés parce qu'ils sont aperçus qu'ils avaient fait l'annonce avant d'étudier le problème. Ça arrive parfois en politique. Hein. C'est pas la première fois. Et donc, il me dit, il est possible que tu sois sollicité pour les aider à rétropédaler. Si c'est le cas, je les aiderai à rétropédaler, mais sur le reste, je pense qu'il faut être extrêmement attentif parce que j'avais l'occasion de travailler sur la question de l'islam et de la laïcité D'une part, la République a été scandaleuse, puisqu'elle pouvait régler le problème en Algérie en 1905, elle ne l'a pas fait. Bon, j'entreprends le détail de cette histoire. La colonisation était là. Mais je pense qu'effectivement, avoir aujourd'hui une approche napoléonide de l'organisation de l'islam est une erreur. Ça voudrait dire qu'il y a en France une religion que l'on reconnaît au sens napoléonien du terme, l'islam, parce qu'elle serait mineure en quelque sorte et qu'elle serait dans l'incapacité de définir des modalités de financement qui soient acceptables par la République et qu'elle est incapable de recruter des imams qui aient une fibre républicaine suffisante. Je regrette. J'ai pas le sentiment que qui que ce soit aujourd'hui fasse passer des brevets de républicanisme aux évêques français. On ne leur fait même pas passer des brevets de conformité au droit pénal français dans les comportements qu'il faut avoir avec les mineurs. Enfin, je suis peut-être brutal, mais enfin, pourquoi voudrait-on qu'une religion comme l'islam soit beaucoup plus conforme que les autres religions dans sa conformité à l'idéal républicain ? Qu'elle ne trahisse pas les lois républicaines, bien sûr, enfin que, mais pas plus que les catholiques, les juifs ou les protestants, ou les bouddhistes, ou les hindouistes, il y en a. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, le combat qu'il faut avoir, c'est un combat au service de la défense des principes de l'article 1er de la loi de 1905. En disant ce qui est important, c'est la garantie offerte par la République au libre exercice des cultes. Et si effectivement le libre exercice, mais on le fait déjà, exige que, je ne dis pas on torde le bras à l'article 2, on ne tord pas le bras d'ailleurs à l'article 2, puisque l'article 2 doit être lu sous l'éclairage de l'article 1er. Si la République garantit le libre exercice des cultes, il faut qu'elle s'en donne les moyens quand même de cette garantie. Et rien, me semble-t-il, aujourd'hui ne fait obstacle, par exemple, au recours à des baux amphithéotiques administratifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le code du domaine de l'État a été modifié pour permettre ces baux amphithéotiques. Il y en a quelques-uns. Alors des fois, ça va un peu loin. Fraîche a été un peu loin à Montpellier. C'était Fraîche. Donc parfois, lui, il avait une vision un peu lointaine de la loi. Mais à Montreuil, ça s'est fait sans aucune difficulté. Par contre, là où il faut être attentif, mais la loi de 1905 répond là-dessus. S'il y avait un représentant d'un culte qui était proposé séditieux, il y a des sanctions pénales qui sont prévues par la loi de 1905. On ajoute, on retranche. Alors, faut-il par ailleurs organiser une formation pour que les imams parlent français aient une connaissance minimale du droit français ? Peut-être, j'en sais rien. Que l'on permette aux musulmans de financer eux-mêmes leur lieu de culte par des prélèvements sur l'abattage halal ? Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas très compliqué, ça. Par contre, ne touchons pas au reste. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans qui le demandent. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est ce que me disait implicitement Jean-Louis Bianco, c'est qu'ils n'ont pas pris conscience du fait que ce dont ils débattaient, ce n'était pas la demande des musulmans. C'était leur demande à eux un peu fantasmatique, liée au regard qu'ils portaient sur les musulmans, en disant ils doivent demander ça, les musulmans. Et donc, si on veut éviter le feu dans les quartiers, ben non, le feu dans les quartiers, on ne l'évitera pas parce qu'on permet un financement d'appart. Enfin, je le disais tout à l'heure, c'est que le renforcement de la pratique religieuse des musulmans, c'est le produit des discriminations. Gamin qui dit, il y a une très belle thèse sur le sujet, c'est d'ailleurs celle qui a eu le prix de la recherche du monde, et je peux en parler puisque j'étais au jury de la recherche du monde en 2015. Une très belle thèse de sociologie sur Nanterre. Sur la façon dont la communauté musulmane a évolué au contact du Parti communiste, puisque Nanterre est une ville communiste. Et l'auteur démontre très bien qu'au début, il y a une vraie fraternité des chaînes de montage. Type musulmans, catholiques, incroyants, ils s'en foutent. Ils sont syndiqués, ils se battent ensemble. Là où le problème devient problématique, c'est lorsque les gamins disent « Attends, papa, t'en as pas marre de te faire exploiter, tu vois pas le regard qu'on porte sur toi, et on assiste à un déploiement de la pratique de l'islam. Demandons des lieux de culte. » Alors, je dis pas qu'il faut pas qu'ils les demandent, mais tant qu'on n'aura pas réfléchi sur les raisons qui font que la revendication de pratiques religieuses chez les musulmans s'est accrue dans les années 90, on n'aurait rien compris et on n'aurait pas trouvé de solution. Et je pense que c'est par contre là-dessus qu'il faut travailler. Et en parler clairement avec eux. Il n'y a rien à cacher sur le sujet. Ce n'est pas insultant d'interroger une communauté sur les raisons qui font qu'elle se communautarise. Il y a des gens qui se battent contre les communautés, mais je le regrette. C'est un fait social. Si on veut éviter le communautarisme, qui est par contre une stratégie idéologique, je pense qu'au préalable, il faut qu'on interroge la communauté. Savoir pourquoi elle est en train de dériver aujourd'hui. Si on ne lui pose pas la question, elle ne répondra pas. Et elle va continuer sa stratégie d'identification, de protection. Parce qu'il y a les deux identités. L'identité où je me protège contre ceux que je ne veux pas voir parce que je suis détenteur du pouvoir, c'est les trumpistes, hein. L'identification du petit blanc. C'est chez nous, là, hein, donc ils disent. Donc, venez pas nous emmerder, vous, les Noirs. Hein, ils ne se rendent pas compte que c'est quand même eux qui les ont importés. Pas sur l'histoire américaine. Et vous avez l'identité de protection. Les gens se protègent. Et s'affirment en disant, mais on existe. Et donc, vous ne voulez pas nous entendre. Les femmes vont porter la burqa, etc., etc. Je ne dis pas qu'elles le fassent par conviction, mais c'est aussi une façon de dire, mais vous n'avez pas voulu nous reconnaître, vous allez nous voir. C'est l'accession à la visibilité. Je me rends visible lorsqu'on ne veut pas me voir. Mais le débat sur la loi 1905 est un débat un peu casse-gueule à l'heure actuelle. Hein. Je pense que le gouvernement a intérêt à être attentif. Je ne dis pas qu'on va l'aider, hein, mais on l'aidera à éviter les erreurs, si c'est nécessaire.
Hop. Voilà. Oui, mais c'est parfait.
J'avais une question de point de vue, en fait, par rapport à... vous avez cité François Julien, qui a une vision très optimiste des identités culturelles et part du principe qu'il y a un multiculturalisme qui va s'accélérant. Et donc, il fonde à partir de ce multiculturalisme une position positive par rapport à un avenir. Mais si l'on prend d'autres visions sur le sujet, par exemple la vision qui était celle de Lévi-Strauss, par rapport à la convergence vers une monoculture, comment peut-on penser un échappatoire ou du moins une solution par rapport au racisme si l'on se retrouve tous à produire de la betterave, pour filer la paraphrase?
Disons que les postures ne sont pas les mêmes. La position de Julien est une position de philosophe, celle de Lévi-Strauss est une position d'ethnologue, hein, essentiellement. Donc, ils ne disent pas la même chose. Ils ne prennent pas en compte le même public. Alors, certes, Lévi-Strauss a une vision très générale, et ses analyses s'appliquent à autre chose que au peuple primitif qui ont été l'objet de ses études. Mais je pense qu'il faut tenir compte de cette première distinction entre les deux. Julien est en apparence optimiste. Mais il me semble qu'il y a une chose d'évidence. La multiculturalité, elle a toujours existé, certes. Ce qui fait aujourd'hui sa singularité, c'est qu'elle s'impose à égalité de droit et de visibilité. Il y a des relations de domination, certes, qui existent ici ou là. Mais ce qui fait la situation dramatique du temps présent, c'est que cette multiculturalité n'amène pas à confronter des entités homogènes, comme pouvait le penser à un moment Lévi-Strauss, amène à confronter au sein d'une même entité des niveaux de domination différents. Ce qui signifie que ce qui se déconstruit, ce n'est pas le rapport entre des communautés dans un espace marqué par des frontières, comme ça a été longtemps le cas. Ce qui se déconstruit, c'est une sociabilité dans un espace fermé. Un espace fermé. À la fois fermé et ouvert. C'est-à-dire que c'est à la fois, ça dépasse les frontières, mais c'est dans les frontières aussi. Et la vraie difficulté, c'est de trouver le moyen de dépasser ce changement de rapport à la domination dans les sociétés modernes. Et je trouve que François Julien, de ce point de vue-là, dit des choses, on peut le considérer un peu comme irénique, la position qui est la sienne, mais ce qu'il dit, me semble-t-il, est assez juste. Il dit qu'on le veuille ou non, dans un espace culturel marqué par la multiculturalité, il y a à la fois des points de contact et des points de divergence, qui sont variables avec le temps. Mais si on l'ignore, on ne se donne pas les moyens de créer de la sociabilité. Et ça ne se limite pas simplement, j'évoquais Aristote d'un côté et Confucius de l'autre, ça va au-delà la pensée de... Il y a un très beau texte, enfin il y a plein de textes, parce que souvent il répète la même chose aussi. Alors il y a le tout petit opuscule qu'il a publié à l'ERN il n'y a pas très longtemps, qui s'intitule « Il n'y a pas d'identité culturelle », où il reprend beaucoup de ces... Mais c'est simplissime. Mais si sa démarche vous intéresse, il y a un texte, alors qui n'est pas très long non plus, qui a été publié il y a 4-5 ans, je pense à peu près, qui s'appelle « L'écart et l'antre », qui est sa leçon inaugurale lorsqu'il a été installé à la chaire de l'altérité à l'école des hautes études en sciences sociales. Il explique le phénomène. Et il dit, tant qu'on n'aura pas adopté cette position à la fois de curiosité et d'attention à ce qui n'est pas nous, on court le risque de fonctionner sur une logique du « eux » et « nous ». Et aujourd'hui, ce qu'il faut, me semble-t-il, engager comme démarche, c'est une démarche qui nous amène à sortir du « eux » et « nous ». Il n'y a pas « eux » et « nous », soit ici, soit ailleurs. Il y a « nous », il y a la communauté humaine, alors avec des individus différents, avec des prises de position différentes, mais avec une fluidité dans les rapports sociaux, les rapports humains. Mais à partir du moment où on ne se donne pas les moyens d'interpeller les écarts, on court le risque de catégoriser définitivement et de dire il y a les Arabes d'un côté, enfin certains disent même les Bougnoul hein, d'un côté, avec des confusions énormes. Ils disent alors ils sont musulmans, ils sont arabes. Et vous leur dites prudemment, mais attendez, c'est pas la même chose. Enfin, il y a d'abord les Arabes, c'est le peuple, il est une origine géographique. L'islam, c'est une religion. Et en plus, les Arabes sont minoritaires. La plupart des musulmans ne sont pas arabes. Ils sont kabyles, ils sont indonésiens, ils sont pakistanais, ils sont iraniens, ils sont turcs. Ils ne sont pas arabes. Ah d'accord, oui. Mais les Bougnoul, vous avez souvent ce discours enfin, qui consiste à dire bah, on s'en fout, enfin, ils sont de l'autre côté de la Méditerranée. Avec l'idée que on les a colonisés, on a eu tort de partir, parce que c'est le discours qui mélange colonialisme, racisme et toute la lie du discours politique. Qui consiste à penser que l'autre étant différent de moi, il est nécessairement inférieur. Et donc, s'il vient chez moi, il perturbe ma sociabilité. D'où l'intérêt de créer cette fluidité qui consiste à dire c'est parce qu'il pense pas pareil qu'il est intéressant. Tout l'intérêt de la rencontre que j'ai avec lui, ou avec eux, c'est précisément qu'on devienne nous. Et qu'on cesse précisément de s'assigner réciproquement à résidence, parce qu'il n'y a pas de résidence. Enfin, s'il y en a une, mais elle est de plus en plus réduite. C'est le débat environnemental actuel. Donc, on fait comment pour survivre à 8, 9 milliards d'habitants avec des différences culturelles considérables? Comment on ne se tue pas entre soi? Enfin, serons-nous les dinosaures de l'avenir, quoi? Avec cette particularité, c'est qu'on n'aura pas besoin de météorites, on est capable tout seul d'aller vers la catastrophe. On y est d'ailleurs déjà aujourd'hui en train d'avancer pesamment vers cette catastrophe.
Je pense qu'on va conclure. Merci encore à M. Ducomte pour la richesse de ses propos. Merci également à vous pour vos interventions.